Laudetur Jesus Christus.
Le custode de Terre Sainte, reçu ce matin par le pape François, il l'a encouragé à faire connaître et à raconter la réalité de sa région. Les Palestiniens se mobilisent pour dénoncer les conditions de détention de leurs prisonniers. Une figure du Fatah est actuellement dans un état critique dans une prison israélienne. Les explications de notre correspondante à Jérusalem. Dans ce journal également, la démonstration de force des talibans pour faire rentrer dans les rangs les chefs locaux. Et puis direction les Pays-Bas. Les mesures pour lutter contre la Covid s'assouplissent, mais nous l'entendrons, elles sont toujours très mal reçues par une frange de la population.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour, une délégation de Terre Sainte vient d'être reçue par le pape François à l'occasion des 100 ans de la revue Terre Sainte Magazine. Une délégation menée par le custode de Terre Sainte, Francesco Patone. Delphine Allaire, le Saint-Père, les a remerciés pour leur travail.
Oui Marine, le pape qui leur a rappelé combien faire connaître la Terre Sainte équivaut à transmettre le cinquième évangile, c'est-à-dire l'environnement historique et géographique dans lequel la parole de Dieu s'est révélée puis faite chair en Jésus. La communication à l'heure des réseaux sociaux doit permettre de construire une fraternité, a souligné François, encourageant ses hôtes à raconter la fraternité entre chrétiens d'église et de confessions malheureusement encore séparées, celle aussi entre tous les enfants d'Abraham, juifs, chrétiens et musulmans, ou encore celle ouverte aux migrants et réfugiés. Le pape a fortement encouragé cette délégation qui s'efforce de rencontrer les gens là où ils sont et tels qu'ils sont, dans les réalités les plus difficiles et les plus souffrantes, en Syrie, au Liban, en Palestine et à Gaza. Grâce aux réseaux sociaux, le travail de Terre Sainte Magazine permet également d'enrichir la foi de nombreuses personnes et surtout, a conclu le Saint-Père Marine, même celles qui n'ont pas l'occasion d'effectuer un pèlerinage sur les lieux saints.
Merci Delphine Allaire. Et pour plus de précisions, une adresse internet vaticannews.va. On reste dans la région. Nouvelle mobilisation des Palestiniens pour leurs prisonniers et plus particulièrement pour sauver la vie de Nasser Abou Ahmed qui reste dans un état critique après avoir passé plusieurs jours dans le coma. Nasser Abou Ahmed avait été arrêté en 2002 comme chef local des brigades des martyrs Al-Aqsa, un groupe armé affilié au parti présidentiel Le Fatah qui menace de représailles si jamais il venait à mourir en prison. La direction palestinienne multiplie ses contacts diplomatiques pour faire pression sur Israël, demandant qu'il ait un accès correct à des soins ou qu'il soit transféré dans un hôpital palestinien. Depuis Jérusalem, les explications de Valérie Ferron.
Pour les Palestiniens, le cas de Nasser Abou Ahmed est un exemple typique de ce qu'ils qualifient de politique israélienne de mort lente des prisonniers malades. Âgé de 49 ans, ce dernier est resté plongé dans le coma pendant plusieurs jours après avoir contracté une infection grave suite à une opération en octobre dernier pour lui enlever une tumeur cancéreuse à un poumon. Personne ne connaît son état de santé réel, Israël refusant de fournir des détails. D'autres cas sont actuellement dénoncés, comme celui de Hicham Abou Hawash, qui vient de mettre fin à une grève de la faim de 141 jours pour protester contre sa mise en détention administrative. En attendant sa libération le 16 février prochain, il a été placé dans une salle d'hôpital avec des patients ayant attrapé le virus corona qu'il a lui-même contracté. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, exige pour sa part la libération immédiate d'un jeune de 17 ans, Amal al-Nakhli, atteint depuis la naissance d'une maladie neuromusculaire grave. Il a dû être opéré d'une tumeur cancéreuse, ce qui n'a pas empêché la puissance occupante israélienne de reconduire pour 4 mois sa période de détention. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Des drones probablement à l'origine d'incendies et d'explosion près d'une compagnie pétrolière à Abu Dhabi. 3 personnes sont mortes, 6 sont blessées. Les autorités cherchent à identifier l'origine de ces drones et regardent du côté des rebelles houthis du Yémen qui, dans le même temps, ont annoncé une opération d'envergure aux Émirats Arabes Unis, membres de la coalition menée par l'Arabie Saoudite en soutien au pouvoir yéménite. En Afghanistan, les talibans ont organisé hier un défilé militaire dans la ville de Maïmana, capitale de la province de Faryab, dans le nord-ouest afghan. Cette marche a eu lieu après des tensions avec des chefs talibans locaux. L'un d'eux est accusé d'avoir enlevé des jeunes femmes et il a été suspendu de ses fonctions. Une sanction qui a suscité la colère de ses partisans. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
Le défilé militaire des talibans à Maïmana a eu des allures de démonstration de force dimanche. Le régime islamiste tente de rétablir son autorité après les affrontements de la semaine dernière. L'arrestation d'un chef taliban de l'ethnie ouzbèque avait déclenché des heurts avec des combattants talibans de l'ethnie pachtoune, à tel point que vendredi dernier, les rues de Maïmana étaient désertes. Pour le régime taliban, il est vital que les tensions avec l'ethnie ouzbèque soient étouffées au plus vite pour éviter que ces combattants locaux ne rallient des figures politiques de l'ancien régime qui ont fui à l'étranger après la chute de Kaboul. La crise économique et le caractère peu représentatif du gouvernement taliban pourraient nourrir le mécontentement des minorités ethniques qui s'estiment écartées du pouvoir. Les islamistes ont rencontré la semaine dernière des personnalités proches de l'ancien régime, dont le leader de la communauté panchiri, Ahmad Massoud à Téhéran, mais ces discussions n'ont rien donné. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
L'ancien président ukrainien Petro Poroshenko, de retour aujourd'hui dans son pays après un mois d'exil en Pologne. Il doit comparaître devant la justice qui décidera de le placer ou non en détention provisoire. Petro Poroshenko est accusé d'avoir entretenu des liens commerciaux avec des séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien et cela peut constituer un acte de haute trahison pour la justice. La natalité en Chine à son niveau le plus bas depuis 1978. Selon les données officielles, un peu moins de 11 millions de bébés sont nés l'année dernière. Pourtant, depuis 2016, la Chine a assoupli sa politique de limitation des naissances. Depuis l'an dernier, il est même possible pour une famille chinoise de concevoir 3 enfants. Mais pour autant, le taux de natalité ne décolle plus, plombé par la hausse du coût de la vie, notamment le logement et l'éducation. Toujours en Chine, à 3 semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, le nombre de cas de Covid a atteint son plus haut niveau depuis mars 2020. Pékin se démène pour limiter la propagation du variant Omicron. Certaines villes sont totalement confinées. Tandis que des athlètes commencent à arriver dans le pays, ils sont placés dans une bulle sanitaire totalement coupée du reste de la population. Après des fêtes de fin d'année confinées, le Premier ministre néerlandais, tout juste reconduit, Mark Rutte, vient d'annoncer un assouplissement des mesures anti-Covid. Commerces, salles de sport et coiffeurs peuvent rouvrir, mais pas les lieux de culture ou de restauration. Ce lundi, des théâtres se sont donc transformés en salons de coiffure, tandis que des restaurants rouvraient hier en dépit des interdictions. Une frange de la population néerlandaise s'insurge. Fin novembre, des émeutes avaient d'ailleurs eu lieu pour protester contre des mesures sanitaires. Christophe de Vogde est l'auteur de « L'histoire des Pays-Bas, des origines à nos jours » publié chez Fayard. Il revient avec nous sur l'origine de ces protestations.
Les Néerlandais sont à la fois très, on va dire, des gens qui ont le sens de la solidarité, de la cohésion, du contrôle social, mais qui aussi n'aiment pas trop qu'on restienne leur liberté. C'est un pays quand même profondément marqué par la liberté religieuse, très marqué par le protestantisme. Et c'est pas par hasard d'ailleurs qu'un des pôles de résistance depuis le début de la vaccination, ce sont les minorités protestantes orthodoxes, comme on dit, qui se trouvent dans le centre du pays. Donc vous avez là un cocktail de protestants traditionnalistes, aussi dans les minorités d'immigration et dans la population, notamment dans la jeunesse qui en a un peu assez de toutes ces restrictions. Vous avez en ce moment un cocktail quand même de protestations qui devient assez fort. D'autant que beaucoup de pays relâchent leurs mesures de restriction, alors que les Pays-Bas, eux, sont au contraire rentrés en confinement. Donc il y a une sorte de contretemps qui, évidemment, pèse beaucoup sur la popularité du gouvernement, surtout aussi avec un variant qui s'annonce beaucoup moins dangereux.
Voilà Christophe de Vogde, l'auteur de « L'histoire des Pays-Bas, des origines à nos jours », publié chez les éditions Fayard. Il était interrogé par Marie Duhamel. Une relique de Jean-Paul II volée dans l'est de la France à Paray-le-Monial, un morceau de tissu imprégné du sang versé par le pape polonais au moment de la tentative d'assassinat contre lui, c'était en 1981. L'objet avait été offert à la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial par le diocèse de Cracovie en 2016. Jean-Paul II qui s'était rendu sur place en 1986. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Mâcon et par le parquet. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.